Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, mais on va parler d'une exposition. Une exposition qui a lieu au MUCEM, après Babel. Traduire, c'est d'ailleurs votre première exposition en tant que commissaire d'exposition. Ça se passe au MUCEM jusqu'au 20 mars, au MUCEM, c'est-à-dire à Marseille. Alors, s'il fallait d'abord la présenter, cette exposition, Barbara Cassin.
Ah, je dirais que j'ai eu d'abord beaucoup de plaisir à la faire et que ça a été beaucoup plus facile que je n'aurais cru de trouver des œuvres. Elles sont arrivées en masse, les œuvres à montrer. Et puis, j'ai travaillé autour de deux idées. La première idée, c'est que c'est à Marseille, en Méditerranée, qu'il faut montrer que notre civilisation, et je ne sais pas du tout ce que veut dire notre, s'est construite autour de la traduction. Et puis, la deuxième idée, c'est que, étant donné le contexte actuel, plus que jamais, on a besoin de savoir-faire avec les différences. Et ça, c'est ce que nous apprend la traduction. Ce que ça fait bouger, et en tout cas ce que ça a fait bouger pour moi, c'est l'idée que on pourrait parler une langue universelle. Voilà, que la langue que je parle, en l'occurrence le français, c'est la langue et puis c'est tout. Bon. Et comme je suis helléniste, les Grecs pensaient ça au maximum, c'est-à-dire qu'ils pensaient que leur propre langue, c'était le logos, c'est-à-dire à la fois discours et raison, et puis pendant que vous y êtes, la langue grecque, et que les autres parlaient à peine.
Les barbares, les autres.
Voilà, blablabla, une onomatopée comme berbère, comme babil, comme babel. Bon. Et traduire, c'est déjà comprendre que soi-même, on parle une langue. C'est une langue, entre autres, que l'on parle. Et ça me paraît le premier gain, le vrai gain de la perception de la diversité des langues. C'est pas tellement qu'on va être gentil avec l'autre, c'est pas qu'on va arrêter de faire la guerre, c'est qu'on va arrêter de dire qu'on est seul.
Alors comment s'articule cette exposition, Barbara Cassin? Comment vous l'avez conçue?
Je l'ai conçue en trois temps. Le premier temps, c'est Babel, malédiction ou chance, et quelle politique de la langue faut-il mener pour que ce soit une chance, pour que la diversité des langues et la diversité tout court soit une chance. Le deuxième temps, c'est les flux et les hommes, et on suit des œuvres, et on se pose quelques questions graves, du genre, peut-on traduire la parole de Dieu? Comment fait-on? Bon, comment fait-on avec les trois monothéismes, par exemple? Et puis, le troisième moment, c'est qu'est-ce qui résiste à la traduction? Traduisible, intraduisible. Moi, j'ai fait, il y a un bout de temps, un dictionnaire des intraduisibles en philosophie, et c'est-à-dire que j'ai compris qu'on philosophait en langue et pas seulement en concept, pas d'abord en concept mais en mots. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait des résistances, que ce n'était pas la même chose, même dans ces choses si abstraites et si universelles, ou si soi-disant universelles, que sont les philosophèmes. On philosophe en langue. Et quand je dis mind, je dis pas geist et je dis pas esprit. Et quelle différence ça fait? Et quand je dis bonjour, je dis pas shalom ou salam. Quelle différence ça fait? Donc voilà, ce qui résiste, c'est non seulement le corps des langues, le son qu'elles ont, la manière dont on a de les parler, mais c'est aussi, je vais prendre l'exemple d'une simèse qu'on a faite, que j'aime énormément. On a travaillé ça avec des associations marseillaises, qui par exemple accueillent des migrants, mais pas seulement, aussi avec des associations de prisonniers, avec des associations tout court, qui travaillent à l'intérieur de Marseille. On a demandé aux gens qui arrivent, dont le français n'est pas la langue maternelle, quel est le mot de votre langue qui vous manque le plus quand vous parlez français? Et on a obtenu des réponses qui font constellation, et qui font constellation de termes autour de la nostalgie, autour de la parenté, autour du sentiment, autour de la spiritualité. Et cela se voit. Et c'est très beau de voir et d'entendre les définitions que les gens donnent du mot qui leur manque. Par exemple, il y a une femme qui dit, et ça m'a beaucoup touchée, elle dit, moi, dans ma langue, en l'occurrence c'était l'arabe, dans ma langue, je sais dire comment je l'aime. Je l'aime à vouloir mourir avant lui. Mais comment je dis ça en français?
C'est bizarre ce que vous me dites là, Barbara Cassin, puisque moi-même j'ai un mot en arabe que je n'arrive pas à traduire en français. Ce mot, c'est niya, et c'est tout à la fois de la naïveté et de la sagesse. C'est pas tout à fait de la sagesse, mais c'est surtout pas de la naïveté. Et vous donnez plusieurs exemples de ce mot qu'on voudrait traduire et qu'on n'arrive pas à traduire.
Oui, mais je n'ai pas la bonne traduction, évidemment pas, mais c'est un mot qui nous a été donné aussi, oui, oui.
Alors, on n'est pas comme dans le film Lost in Translation, dans cette exposition. Non, mais parce qu'on est vraiment guidé. On est guidé par des documents, on est guidé par le regard des artistes contemporains, mais aussi par des archives, des pièces précieuses. Et vous avez décidé que cette balade, cette déambulation dans ce monde de qu'est-ce que la traduction, devait passer par trois étapes qui vous paraissent à vous, Barbara Cassin, nécessaires.
Oui, mais elles se sont imposées. J'ai pas véritablement décidé, ça s'est choisi. De même que les œuvres se sont choisies aussi. Évidemment, il y a des choses que j'aurais voulu avoir et qui étaient ailleurs, qui se baladaient ailleurs dans le monde. Mais quand même, en gros, j'ai eu à peu près tout ce que j'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, c'était essentiellement montrer des œuvres d'art extrême, bon, sublime. Bon, des portraits, par exemple, un Latour, portrait de Saint-Jérôme, des Cranach, portrait de Luther, des vases du Louvre, bon. Et puis, des objets quotidiens.
Ou de la culture populaire, par exemple, on a Tintin dans toutes les langues.
On a Tintin dans toutes les langues, on a une poupée berbère, pour montrer que, voilà, barbare, berbère, c'est aussi une poupée qu'on trouverait dans un coffre à jouets. Bon, et à côté d'œuvres dites œuvres d'art, qui peuvent être soit contemporaines, soit très anciennes. Il y a tous les temps, tous les lieux et tous les supports. Par exemple, le mur des barbares, ce que j'appelle le mur des barbares, c'est une très belle œuvre de Mel Bochner, qui est un artiste contemporain qui vit aux États-Unis et qui a simplement, sur un fond de velours noir, mis bla, 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 en lettres de toutes les couleurs. Et ça fait un effet extrême. Et à côté de ça, dans des niches, très précieux, des vases du Louvre qui montrent des barbares en tenue, avec des chapeaux bizarres, avec des cuirasses étranges, en train de séduire des femmes, en train de faire la guerre, bon, des barbares, quoi. Et puis, à côté de ça, le barbare que nous sommes pour les Chinois, c'est-à-dire un caravanier au long nez, bon, qui est un barbare, nous. Bon, voilà, tout s'est imposé à moi, tout seul.
Vous travaillez beaucoup, bien sûr, sur Lacan, sur Derrida. Derrida qui disait « Je n'ai qu'une seule langue, ce n'est pas la mienne ». Comment il faut l'entendre, ça, aujourd'hui ?
Ça n'est pas la sienne, parce que le français ne lui appartient pas, et parce qu'en même temps, il en a plus d'une. Et la deuxième phrase que je trouve très belle de Derrida, et sur laquelle on pourrait rebâtir cette exposition, et en tout cas, mon livre tourne autour de cette phrase, c'est Derrida disant, voilà, si j'avais à donner une seule définition, barbare, elliptique, bon, comme un mot d'ordre, de la déconstruction, je dirais plus d'une langue. Donc, ce dont il s'agit avec « je n'ai qu'une seule langue et ça n'est pas la mienne », c'est qu'il s'agit toujours de plus d'une langue. Une langue, ça n'appartient pas, et plus d'une langue.
Barbara Cassin, il y a aussi le métier de traducteur qui est mis au centre de votre exposition ici au MUCEM, ne serait-ce que parce que ces traducteurs qu'on ne voit jamais, qui sont enfermés dans des petites cases, vous leur avez consacré une grande case là, et on entend plusieurs langues, mais vous avez aussi choisi, et cet exemple est assez saisissant, pour montrer que les traductions sont des traductions, on parle très souvent de trahison, mais c'est peut-être pas le mot qu'il faut, les traductions sont personnelles. Et l'exemple même d'Edgar Poe traduit par plusieurs écrivains est là pour le rappeler. Plusieurs écrivains, plusieurs langues, plusieurs cultures, de Baudelaire à Pessoa, oui. Vous montrez bien tout ça.
Oui, je crois qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que la traduction, c'est de l'énergie, comme une langue. C'est pas des œuvres closes. Une œuvre n'est jamais close, une langue n'est jamais close, une traduction n'est jamais close. Et ce dont il s'agit, c'est aussi du fait qu'il y a plus d'une bonne traduction. Ça, on le montre d'emblée, pas seulement avec Poe, mais on le montre d'emblée dans l'exposition, quand on entend Mesguich lire plusieurs traductions de l'épisode de Babel. Des traductions très différentes les unes des autres, qui font entendre d'autres choses, et même une autre manière de trifouiller la langue, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans un cas, on a un français très calme, très plat, c'est la traduction de la TOB, œcuménique. Et puis dans un autre cas, on a une traduction d'une violence extraordinaire avec des créations de mots, c'est la traduction de Chouraki, où on entend l'hébreu qui cogne dessous avec les lèvres au lieu des langues, enfin voilà, le fils du glébeux, c'est Adam, enfin bon. Et puis on a une traduction, disons, suprêmement intelligente, qui est celle de Méchonique. Et qui fait entendre que l'épisode de la tour de Babel, ben, Dieu a peur des hommes et les hommes ont peur de Dieu. Bon, il y a plus d'une bonne traduction, de même qu'il y a plus d'une langue. Et ça, c'est peut-être la personne, le philosophe qui l'a le mieux dit, c'est Humboldt. Bien avant Derrida, ou bien autrement que Derrida, à la fin du 19e allemand, Humboldt explique que chaque langue est comme une vision du monde et que chaque traduction est aussi une réappropriation vision d'une œuvre. Et c'est ce qu'on voit avec Poe, Baudelaire, Mallarmé, Artaud, Pessoa, tous traduisent et se font eux-mêmes, se fabriquent eux-mêmes en traduisant. Chacun de ces poètes, c'est lui. C'est-à-dire qu'on entend Baudelaire, on entend Mallarmé, on entend Artaud, on entend Pessoa en entendant Poe. Et c'est à travers eux que Poe devient le grand écrivain qu'il est, devient ce que Baudelaire voulait, faire de Poe, qui était un écrivain méconnu anglais, un grand écrivain français. Et bien, c'est réussi.
En tant que philosophe, qu'est-ce que vous entendez quand on parle de traduction? On dit c'est une mauvaise traduction, c'est une bonne traduction, faites attention à cette version qui n'est pas meilleure. Vous, quand vous entendez ce genre de remarques, de discours, ça vous renvoie à quoi?
Ça renvoie à ma pratique de traducteur, de traductrice. Moi, j'ai traduit du grec ancien, j'ai traduit des présocratiques, par exemple. Alors, il y a des traductions fausses. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne peuvent pas vouloir dire ça dans cet assemblage-là. Bon, ça existe. Et puis, il y a des mauvaises traductions, au sens où il y a des traductions qui ne disent pas au maximum de ce que ça peut vouloir dire. Et puis, il y a beaucoup de bonnes traductions qui visent quelque chose et le montrent, quelque chose qui est dans le texte, mais qu'on n'aurait pas vu sans cette traduction. Et c'est pour ça qu'il en faut plus d'une. Et Humboldt disait, toutes les traductions sur ma table quand je traduis. Et moi, quand j'ai traduit, par exemple, l'une des choses, je crois, parmi les plus difficiles, peut-être au monde, qui est le poème de Parménide. Le poème de Parménide commence par « esti », qui veut dire « est ». Mais qui veut dire aussi « existe », et puis qui peut vouloir dire « il est »,« c'est », ou qui peut vouloir dire « c'est le cas », ou « il est vrai que ». Et puis ça dépend par quoi c'est suivi. Et j'ai eu une envie vraiment irrépressible de savoir me servir de l'informatique correctement. C'est-à-dire que je voulais que toutes les équivoques du mot soient mises côte à côte. Et puis ensuite, quand on passe au deuxième mot, eh bien, il y a certaines possibilités qui n'existent plus. À la suite du deuxième, il y a certaines possibilités du premier qui s'effacent rétroactivement. Et puis, il y en a mille autres qui s'ouvrent pour les deux. Et puis, ainsi de suite, jusqu'au dernier mot. Et c'est comme ça, pour moi, la pratique de la traduction. C'est des éventails qui s'ouvrent les uns après les autres et aussi des pistes qui se ferment.
Comme autant d'hypothèses.
Oui, autant d'hypothèses. Et certaines sont meilleures que d'autres, à certains moments, parce qu'on veut faire voir quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'alors. C'est ça que j'appelle le relativisme conséquent. C'est-à-dire, il y a une traduction meilleure pour faire voir quelque chose, pour quelqu'un, pour un moment donné.
Après Babel, traduire l'exposition au Mucem jusqu'au 20 mars, ce n'est pas seulement passer d'une langue à l'autre, la traduction. La traduction peut être une langue à part entière. Enfin, je mets tout ça entre guillemets. Mais dans l'exposition, on voit bien.
Oui, on voit. J'essaye de montrer que traduire, c'est au moins se donner le temps de stationner entre. Et ça me paraît très important. Stationner entre deux langues, stationner à l'intérieur d'un texte ou à l'intérieur de quelque chose qu'il y a à traduire.
Et construire carrément un texte, ce qui est le cas avec la Bible, avec les Mille et une Nuits, oui. Deux exemples qui sont très forts dans cette installation.
Oui, les Mille et une Nuits, c'est vrai, n'existent, comme on les connaît, que via la traduction que Galland a faite de contes enchâssés et d'un manuscrit en particulier qui lui a été rapporté par un chrétien d'Alep. et qui lui a apporté, il s'est dit voilà, je vais donner ça à cet orientaliste-là. Et il se trouve que le chrétien d'Alep a donc apporté un manuscrit, pas vraiment des mille et une nuits justement, deux contes enchâssés, en disant voilà, là-dedans il devrait y en avoir mille et un. Et Galland les a comptés, a dit oui, mille et un, non, il en manque beaucoup, et on va en rajouter. Donc on a rajouté Aladdin, on a rajouté Ali Baba, tout ça a fabriqué les mille et une nuits que nous connaissons et qui ont été traduites après en arabe, en persan, dans toutes les langues du monde. Donc ça, c'est un joli exemple, si vous voulez, d'import-export, d'aller-retour. Alors pour ce qui est des textes sacrés, le rôle de la traduction, moi ce qui m'a intéressé vraiment le plus, c'est de montrer la différence entre le rapport à la traduction et aux langues dans les trois monothéismes, on va dire, pour aller vite. Donc la Bible hébraïque, elle est faite tout de suite avec un targoum en araméen, on ne sait pas trop en quelle langue, c'est de l'hébreu, et c'est aussi tout de suite autre chose que de l'hébreu, et ensuite il faut le traduire en grec, et bon, voilà, c'est un rapport à la traduction immédiat. Alors que la Bible chrétienne, c'est un rapport à la traduction, mais bien différent. La Bible, que je sache, n'a jamais été prononcée en latin, n'a jamais été énoncée, révélée par un Dieu, quel qu'il soit, en latin. Donc c'est une pure traduction, c'est la traduction, en l'occurrence celle qui est acceptée, c'est la Vulgate de Saint Jérôme, et donc ça c'est du latin. Et quand on montre dans la Bible de Jiménez par exemple, une Bible du XVIe, magnifique Bible espagnole, on voit une grande colonne de latin au milieu, puis de part et d'autre, à gauche et à droite, une colonne de grec et une colonne d'hébreu, et le commentaire c'est « voilà le Christ et les deux larrons ». Donc, c'est quand même pas le même rapport hein, à la traduction et aux langues des autres. Et puis, le dernier manuscrit qui est montré dans ce petit groupe de trois, c'est un manuscrit du Coran. Et on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Le Coran, il est en arabe. Et pour tous les usages liturgiques, il reste en arabe. Donc, on a une traduction intralinéaire avec un mot sous un mot. En l'occurrence, c'est du persan. Mais ça n'a pas du tout le même type de fonctionnement. Et ça ne dit pas non plus du tout la même chose de la langue de révélation, entre guillemets, pour autant qu'on croit à la révélation. Ça ne dit pas du tout la même chose quant au texte sacré et au rapport à Dieu.
Traduire une langue, c'est pas forcément traduire des mots ou traduire une écriture. Et dans votre installation, Barbara Cassin, il y a ce film de Nourrit Arrive où justement, il n'y a pas de mots, c'est la gestuelle qui rappelle que même pour ceux qui ne passent pas par les mots, pour les sourds-muets par exemple, on passe par le même processus de traduction, c'est-à-dire adaptation, on met un peu de sa sensibilité, de sa culture, de sa relecture aussi.
Oui, il y a des langues des signes. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je pouvais croire qu'il y avait une langue des signes et puis que ça passait comme ça. Mais non, elles sont aussi nombreuses que les langues dites naturelles. Seulement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et c'est pour ça qu'on a fait ce film avec Nourrit Arive et Emmanuel Laborit, c'est que peut-être on voit là des génies linguistiques sans nationalisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des génies enracinés, des génies nationaux, etc., avec toutes les connotations dures que cela pourrait avoir, mais qui sont des génies gais, comme ça, gestuels, et on entend aussi des bruits. Moi, il y a un exemple que j'adore, qui est la manière dont on signe le mot « culture ». Bon, culture, dans les langues européennes, et en particulier en français, c'est des espèces de gestes qui partent de la tête, comme ça, comme des rayons qui partent de votre tête. Bon, très bien, c'est vraiment un télo. Et puis, en américain, c'est l'index qui est dressé comme un individu, autour duquel l'autre main tourne. Et donc, c'est cet emboîtement-là, cet peut-être embrigadement, qu'est la culture aux États-Unis. Et quand on regarde comment ça se dit en japonais, eh bien c'est deux mains, les deux mains qui s'emboîtent dans un sens et puis dans l'autre. C'est-à-dire que c'est un emboîtement qui fait culture, un ajustement. Je trouve ça extraordinaire, que ça en dit très long, me semble-t-il, sur la manière de voir le monde, de chacune de ces cultures, et en même temps, ça n'a rien de violemment national.
Après Babel, traduire jusqu'au 20 mars au MUCEM à Marseille. Merci Barbara Cassin d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.